je vous propose un échange avec la salle, si vous voulez bien poser des questions tout azimut. Voilà, il y a un micro qui circule derrière vous.
Je vous remercie. Bonsoir à tous. J'aimerais avant toute chose remercier infiniment Survie, qui est une association que j'ai découvert tout récemment ici en France, et du travail courageux qu'ils font, notamment en termes d'éclairage des populations africaines et notamment des élites qui se retrouvent ici par rapport aux problèmes, des problèmes dont nous souffrons. J'aimerais adresser ma première question, parce que j'en ai deux, au CADTM. Vous devez sans doute savoir que la pensée libérale ou néolibérale aujourd'hui, si elle a gagné pratiquement toutes les mentalités, et je dis bien toutes les mentalités de par le monde, c'est parce que les chantres de cette pensée-là usent pour cela des moyens de propagande et donc d'éducation à cette pensée. Ma question est de savoir, est-ce que le CADTM, avec tout son réseau de partenaires, a déjà envisagé la mise en place des moyens d'éducation de masse qui passeraient par exemple par la création des organes de télévision ou de radio, en tout cas des moyens d'information alternatifs qui pourraient travailler à une éducation, à une atteinte réelle des mentalités des populations qui souffrent le plus effectivement des conséquences de l'endettement. Et je parle des populations du Sud essentiellement. Est-ce que vous l'aviez envisagé? Et la deuxième question s'adresse cette fois à l'association Survie, qui, je crois, lutte également contre la banalisation du génocide. C'est ce que j'ai pu noter effectivement sur votre site. Et la précarité matérielle en Afrique, qui a généré également une déchéance morale, a fait que les populations africaines, toutes aujourd'hui, et je parle surtout des populations d'Afrique francophone, cèdent à la résignation. Une résignation au déterminisme libéral, néolibéral, néocolonial, comme vous voudrez. Et la question que je me pose encore aujourd'hui, c'est est-ce que l'association Survie peut évaluer les effets du travail qu'elle fait, notamment ici en Occident, sur les systèmes politiques en Afrique? Est-ce que on sent de l'évolution, du changement, au niveau tout au moins du renouvellement de la classe politique, de la modernité politique? Est-ce qu'il y en a? Voilà, je vous remercie.
Alors, je vais essayer de vous répondre concernant la création de médias alternatifs. Ben oui, on aimerait bien. Bon, par contre, les moyens nous manquent. En France, bon, le CADTM, c'est un réseau international qui est présent sur tous les continents sauf l'Océanie. En France, nous ne sommes que des bénévoles, hein, donc nous faisons avec nos moyens comme nous le pouvons. Par contre, je vous rassure, nous participons à chaque fois que c'est possible et donc, ben voilà, comme des bénévoles sur nos propres deniers comme on peut pour aller participer à tous les forums, enfin tous non, mais tous ceux auxquels on peut participer. Donc on se déplace, hein, y compris bien sûr en Afrique subsaharienne. Enfin moi j'étais au mois de mai au Sénégal et en Guinée-Conakry. Donc on se déplace et on essaie au maximum de participer à ce type d'activité, de décrypter l'information telle qu'elle nous est donnée dans les médias dominants et qui effectivement ne correspond pas à la réalité, ou tout du moins pas celle qui réellement est subie par la majorité des gens, hein, mais par contre, effectivement, qui fait bénéfice à une petite minorité. Donc on essaie au maximum d'être là pour informer, pour décrypter en fait les messages officiels qui sont toujours des fausses annonces. Hein. Bon, je pense par exemple à l'annonce de Glyn Eagles en 2005 qui a été une véritable duperie qui nous a été répétée 5 fois dans l'année. Toutes les dettes étaient annulées, elles sont annulées régulièrement, mais il y en a de toute façon de plus en plus. Bon, je pense aussi à l'initiative Pays Pauvres Très Endettés, dont certains médias dominants se targuent. Je pense à l'aide publique au développement. Enfin, à chaque fois qu'on peut, on essaie de décrypter tous les mécanismes qu'il y a derrière ça et qui servent à couvrir la réalité que subissent une grande majorité d'individus au prétexte de l'endettement. Oui, alors oui, effectivement, il y a des campagnes d'information qui se font sur le terrain par nos camarades dans les pays du Sud, avec les moyens qu'ils ont dans leurs moyens, dans leurs possibilités, et qui sont effectivement très compliqués. Mais il y a eu, par exemple, en 2000, il y a eu toute une campagne qui a été faite à Dakar, où il y a eu un tribunal de la dette, où les acteurs étaient des citoyens sénégalais qui ont donc joué, c'était un jeu de rôle en fait, qui dénonçait les mécanismes de la dette. Et j'allais dire, malheureusement, les populations qui sont au sud, qui sont concernées, je pense que vous le savez bien, qui sont concernées par les mécanismes de pillage liés à l'endettement, savent au quotidien ce que ça représente. Chaque mesure qui est contenue dans les plans d'ajustement structurel, par exemple la politique de recouvrement des coûts de santé qui est préconisée par la Banque mondiale, chaque citoyen du Sud qui est malade et qui va dans un hôpital et à qui on demande de financer ses propres soins, sait bien ce que ça représente et ce que ça veut dire. Les populations, elles en sont effectivement conscientes. C'est vrai que je pense qu'il y a aussi au Nord, ici, un gros travail de décryptage qui est à faire. Mais bien sûr qu'au Sud, il est à faire, mais les gens le subissent tellement que ça se passe assez facilement. Vous avez peut-être aussi entendu parler de la caravane de la dette qui se fait chaque année au Niger, auquel donc nous participons, et qui permet là aussi, comme son nom l'indique, donc, une caravane qui passe de ville en ville et qui permet aussi, là aussi, d'expliquer réellement et de faire le lien entre ce qui se passe au quotidien pour les gens et les difficultés auxquelles ils sont confrontés sur le plan économique, avec les politiques générales qui sont menées par l'intermédiaire des IFI et par l'intermédiaire des États du Nord, bien sûr, avec la complicité souvent de leurs dirigeants corrompus.
Oui, peut-être quelqu'un de survie qui peut répondre à la deuxième question que le monsieur a posée, Cyril. Oui, il y a un micro qui peut circuler.
Oui, la question de l'impact de survie sur les politiques, sur la politique de la France en Afrique. C'est très difficile de répondre à ça, mais ce qui est clair, c'est que Survie, depuis maintenant plus de 25 ans, essaye de faire la lumière sur tout ce qui se passe. Et quand on fait la lumière, quand on rend les choses transparentes, c'est beaucoup plus difficile d'agir avec la même impunité. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on peut... On s'aperçoit aujourd'hui quand même que dans les médias, ces questions-là sortent de plus en plus. Même si c'est encore largement insuffisant, l'implication de la France dans le génocide au Rwanda... la politique de la France, l'intervention de l'armée française au Tchad, en Centrafrique, beaucoup de choses comme ça commencent à sortir. Les biens mal acquis, on a eu des articles dans Le Monde, dans Le Canard Enchaîné. Donc c'est comme ça qu'on essaye d'avancer. Puis c'est aussi en organisant des conférences comme aujourd'hui qu'on essaye de construire justement l'impact de survie. Mais bon, c'est un processus très long et ça demande beaucoup de temps. Et c'est difficile de mesurer un impact. Quantitativement, en tout cas.
C'est surtout ici qu'il est important de... Parce que les gens en Afrique savent paient le prix de la France-Afrique, c'est-à-dire des systèmes, des réseaux mafieux qui pillent l'Afrique. Et le travail, il est à faire ici. C'est-à-dire que ce sont les gens ici qui ne sont pas informés de ce qu'il est fait en leur nom par les politiques et les industries extractiles. Donc tout le travail réside à faire ici et c'est à vous de faire circuler l'information quand vous en êtes saisi. Voilà. Survie fait un travail auprès des députés et du Parlement pour demander que la politique de la France en Afrique soit débattue au Parlement, ce qui n'est pas le cas puisque ça se passe à la cellule de l'Élysée. Voilà, donc c'est une politique qui est faite, qui est non démocratique et qui doit devenir démocratique et transparente. Et c'est à nous, citoyens, d'agir auprès de nos députés pour faire pression à ce niveau-là.
Oui, monsieur. D'accord. Je voulais deux petites questions à la CATEM. Je ne sais pas si au niveau de votre association, vous avez, avant de déclarer ne pas refuser de payer, vous avez étudié le moyen juridique de démontrer le non-fondement de la dette. Qui ferait que ça tomberait? Il n'y a pas à faire la guerre, à déclarer qu'on ne paye pas. On démontre que la dette n'existe pas. Parce que ça s'est déjà passé dans l'histoire. C'est pas dans tous les pays. Je crois que c'est le Mexique. Un pays a déjà réussi à démontrer que la dette n'existait pas. Et la dette est tombée. C'est quelque chose qui est prévu même par certaines conventions internationales. Démontrer que la dette qu'on demande n'a pas existé. Donc on n'a même pas à dire qu'on ne doit pas payer ce qui n'a pas existé. Deuxième chose, vous avez déclaré que l'augmentation de du prix du pétrole a permis à quelques pays d'essayer d'avoir un peu plus de fonds qui permettraient peut-être donner un espoir à développement. Je crains que Christian, pour le Congo, vienne de démontrer qu'il ne suffit pas qu'on augmente, même tripler, le prix de la matière première pour qu'un pays où il y a mal gouvernance, où il y a des dictateurs, pour que son sort change. Parce que la condition de changement, la première condition de changement, c'est politique. Donc démocratie, donc transparence, que le peuple puisse contrôler, demander au gouvernant de rendre compte. Quand il n'y a pas ça, on peut toujours tripler, même quadrupler le prix du pétrole, d'autres matières premières, de l'uranium. Je crains qu'un pays pauvre reste pauvre, parce que les dirigeants font ce qu'ils veulent avec les ressources qu'on reçoit. Et puis je termine par Christian. Il faut vous aider, comme ça. Je voulais poser la question, si demain matin j'ai 10 milliards d'euros et que je vais aider les Congolais, qu'est-ce que je fais, Christian? Je fais les mercenaires, on va chasser l'autre là-bas. Si je vous envoie pour faire les routes ou manger, je parie que ça n'arrivait même pas à Libreville. Vous avez oublié de nous dire ce qu'a coûté le mausolée d'un certain Brazza de quelque chose. On aurait aimé savoir le prix. Merci.
Alors, pour répondre à votre première question, oui, il existe effectivement des moyens de démontrer que cette dette ne doit pas être remboursée. Il faut pour cela faire des audits. Alors, ça se fait dans plusieurs pays. Le Mali a entamé, l'Équateur récemment vient aussi de s'y mettre. C'est en cours dans plusieurs pays. Il y a eu une commission aussi, pardon, la commission Olmos qui avait déclaré concernant l'Argentine qu'il s'agissait d'une dette odieuse. Et ça, c'est vraiment une clause qui existe dans le droit international et qui permet réellement d'annuler purement et simplement. Cette dette n'existe pas. Mais il y a aussi les audits qui vont permettre de déterminer que ces dettes sont illégitimes. Autrement dit, qu'elles ont été contractées par des régimes qui n'avaient pas la légitimité d'endetter les populations qui pourtant remboursent la dette qu'ils ont contractée. Donc, en l'occurrence, il faut pour cela, effectivement, alors là, ça reprend le thème de l'information et de divulguer et d'exiger des dirigeants, quels qu'ils soient, au nord comme au sud, et nous, au CADTM, nous engageons une action dans ce sens. Nous voulons créer effectivement un audit des créances de la dette française pour pouvoir vérifier quelles sont ces sommes qui ont été prêtées, à qui, pourquoi, quelles ont été donc réellement, à quoi elles ont servi en réalité, si oui ou non elles ont effectivement bénéficié aux populations, mais ça, on connaît déjà la réponse, bien évidemment, pour pouvoir les déclarer illégitimes et donc non remboursables, purement et simplement. Pour l'autre partie de votre question, en l'occurrence, bien sûr que le rétablissement des termes de l'échange ou le rétablissement d'un commerce international qui serait plus juste n'est pas la seule mesure qui est à prendre en compte. Il y a aussi l'annulation de la dette, ça je crois que vous l'avoir bien m'être exprimé là-dessus. Il faudrait bien évidemment que l'aide publique au développement soit réellement portée au 0,70% auquel les États s'étaient engagés en 1970. Ça fait 37 ans maintenant qu'ils ont promis, juré, ça allait être à 0,70% de leur PIB. Elle a encore baissé cette année, on va atteindre 0,3%. Et ça, c'est pareil, c'était aussi une des promesses de Gleneagles en 2005. Promis, juré, elle serait à 0,5%. Donc, ils nous promettaient qu'elle serait plus basse que ce qu'ils avaient promis 36 ans avant, mais c'était un accord historique. Enfin bon. Donc, en l'occurrence, c'est vrai que ce ne sont pas les seules choses. Il faut bien évidemment, et tu en parlais tout à l'heure, supprimer les paradis fiscaux et le secret bancaire. En fait, c'est réellement le moyen de camoufler les détournements d'argent et de faciliter la vie à tous les corrompus et aux corrupteurs, bien évidemment, qui sont les multinationales du Nord dans bien des cas. Donc, il faut aussi réellement reconstruire une véritable, alors je sais que le terme a été tellement galvaudé qu'il est difficile à utiliser, mais une véritable démocratie, j'allais dire gouvernance, une véritable démocratie internationale digne de ce nom, ce qui n'est pas le cas non plus. On sait ce qui se passe à l'ONU. Toutes les résolutions sont régulièrement non suivies alors qu'elles sont prises et de toute façon, personne ne les respecte. Donc, ça fait partie de toutes les mesures qu'il faudrait effectivement arriver à mettre en place. Et ça, c'est réellement sous la pression des populations, hein, de chacun d'entre nous à notre niveau, que nous pourrons peut-être arriver à reconstruire effectivement autre chose qui soit bâtie sur la véritable dignité des populations.
C'était pas le mot qu'il fallait peut-être. mais nous demandons le soutien. Et nous aimerions que certains pays africains, des amis de certains pays africains, fassent autant que les Congolais ont fait, qu'ils aient des associations sur la place de Paris qui pourront aussi porter plainte contre les biens de leurs dirigeants. Et comme ça, nous serons une force. Je crois que c'est ce que je voulais dire, vous faire connaître. Pour ce qui est du mausolée de Savonion de Brazza, sans me tromper, parce qu'il y a un service rattaché à la présidence de la République, qu'on appelle, service des grands travaux. Le chiffre qui avait été avancé, c'est de l'ordre de 15 millions d'euros, soit 10 milliards de francs CFA. Voilà, je crois que j'ai répondu à votre question. Oui, on aurait tout construit, parce que dans chaque village dans les temps, chaque village de plus de 200 habitants, il y avait une école primaire. Et aujourd'hui, on n'en trouve plus. Les enfants doivent faire 5 à 7 kilomètres pour trouver une école. Quant au lycée ou au collège, n'en parlons pas. Donc, c'est pour vous répondre. Brazzaville, Kinkala, 78 kilomètres, la capitale, le chef-lieu de la région du Pool. En montant, on le faisait en 40 minutes, 45 au plus. Entre-temps, il fallait 6 heures pour faire 78 kilomètres. J'ai répondu, je crois, à votre question. Merci.
Bonsoir. Je voudrais juste répondre à la question de monsieur qui demandait l'impact des associations sur le continent africain dans certains pays. Je voudrais lui rappeler que vous avez de plus en plus ces dernières années des forums citoyens organisés par des associations civiles représentées notamment médiatiquement en 2005. Le forum de Bamako, également celui de Nairobi, où pour certains pays, je donne tout juste un seul exemple, le Togo, vous avez des associations sur place qui simplement ont été empêchées, verrouillées, pour ne pas participer à ces types de débats. Et donc, il y a lieu aussi de dénoncer au travers de chaque personne engagée les voies et moyens nécessaires pour que ces forums puissent être de plus en plus participatifs.
Une dernière question avant d'écouter Koulsi Lamko et ses musiciens. Deux ou trois rapides.
Je vous remercie de vos différentes interventions, mais j'ai une question précise sur la monnaie. Comment les États africains peuvent ils payer leurs dettes quand on sait que le franc CFA est géré à Paris par la Banque de France? Nous ne disposons pas de notre porte-monnaie. Lorsqu'on vend pour 100 francs CFA, on sait que 60 francs sont retenus par la Banque de France et on nous retrocède 40 francs. Comment peut-on s'en sortir? Parce qu'il faut d'abord disposer de son porte-monnaie. Merci.
Je crois, monsieur, que la réponse était dans votre question et je suis sur le même constat que vous. Il faut absolument que, ici, les Français, bon, à cause du lien avec le franc CFA, prennent conscience de ce pillage-là et de ces mécanismes-là. Il faut qu'on puisse le dire, absolument, le dénoncer et l'expliquer. La plupart de mes concitoyens ne sont pas au courant, ne savent pas, ne connaissent pas ces processus-là. Et donc, c'est à nous de le dénoncer.
Je crois aussi que nous, Africains, évidemment, les dirigeants, parce que ce problème, effectivement, qu'il s'agisse des devises que le pays reçoit d'un pays comme la Chine, ça a toujours été ainsi. Ça passe toujours par la Banque de France. Mais aujourd'hui, par exemple, si ces chefs d'État africains créer une force était d'accord. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la BCE. Mais nous aussi, on pourrait dire à la France, ce chef d'État, non, que vous, vous êtes l'Union européenne, que la France, que le France CFA soit, par exemple, aligné à l'euro et qu'il y ait une banque qui s'en occupe, alors que ça, c'est directement de la Banque de France. Ça, c'est parce que si nous étions unis, si nous étions forts, mais hélas, ceux qui nous gouvernent, vous savez vous-même, c'est des potentats. Même quand on parle de rupture, il n'y aura jamais de rupture. Il n'y en aura jamais. Il a besoin de l'Afrique, lui, pour se maintenir au pouvoir. L'énergie. Tout dernièrement, quand il parlait, on a parlé pendant la campagne, il a parlé de l'uranium du Niger, je crois. Et qu'est-ce que Nicolas Hulot lui a dit? Je crois beaucoup de ça, ont suivi ce débat-là. Donc c'est pour vous dire que pour nous libérer, parce qu'à la sortie de la guerre, quand De Gaulle dit tous les moyens nécessaires pour l'indépendance de la France, en pétrole surtout, mais ils en ont employé, ils ont mis tous les moyens qu'il faut. La guerre du Congo, c'est quoi? C'est le pétrole. On aide Sassou, on aide Lissouba. Nous nous entretuions. Et qui gagne dans tout ça? Voilà.
Afin de rester informé, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à Billets d'Afrique sur la table de presse en sortant. Une dernière question rapide, puisque maintenant c'est l'heure d'écouter Kulsi Lamko.
Bon, ce n'est pas une question. Oui. Ce n'est pas une question. Je pense que j'ai le micro. J'ai le micro.
Deux petites secondes, peut-être. L'un après l'autre, peut-être. Vous pensez
oui,
que
j'ai le micro, moi.
Oui. Je crois qu'il a commencé avant. Oui, tout à fait. Madame, pour terminer.
Bon. Moi, je voudrais faire. Je suis du Burkina Faso. Je voudrais faire un petit témoignage sur l'action de Thomas Sankara. Mais avant, je voudrais répondre un peu à la réponse que monsieur a donnée à la question qui s'est posée derrière moi. Je pense que si ce sont des associations qui vont se créer à Paris ou bien dans des capitales européennes pour essayer de lutter contre les dictateurs africains, moi je pense que c'est pas ça la solution. Pour que une nation, pour qu'une société, pour que des villageois, des peuples puissent se développer, il faut que eux-mêmes ils comprennent ce qu'ils font. Ce n'est pas quelques individus qui vont décider et le peuple va suivre. Si le peuple ne comprend pas ce qui se passe, si le peuple ne comprend pas ce que Sassou Nguesso fait de mal, quelles que soient les associations qui vont se créer à l'extérieur, à l'intérieur, ça sera toujours la même chose. Ça, c'est un point. Un deuxième point, c'est pour dire qu'en fait, en Afrique, il n'y a pas d'État autonome. Si nous repartons au niveau de la colonisation, comment la colonisation française en particulier s'est installée en Afrique? En court-circuitant toutes les politiques traditionnelles qui étaient posées en Afrique pour créer une entité politique à côté à partir de la création des chefs de canton et la position d'un bureau colonial qui était dirigé uniquement par des Français et il parlait aux populations à partir des chefs de canton qui court-circuitaient la hiérarchie politique africaine. Et c'est à partir de là que l'impôt de capitation a été posé au niveau des villages africains, au niveau des pays africains, pour nourrir les préfets, la structure coloniale française qui était installée en Afrique. Et après les indépendances, c'est cette structure qui est posée à côté de la politique traditionnelle d'Afrique, c'est-à-dire qui correspond aux 80% qui n'ont pas pu aller à l'école, Donc, ce sont les 10%, les 8% qui ont travaillé contre leur peuple. Aujourd'hui, je suis à l'école, c'est vrai, mais je reconnais que ce sont les 10% qui ont été à l'école française qui sont en train de diriger les pays africains. Et si nous partons en profondeur, en considérant même la définition de ce que c'est que l'État, de ce que c'est qu'une nation, un peuple qui ne frappe pas sa monnaie, un peuple qui n'a pas d'autonomie, qui n'a pas de langue, en réalité n'est pas un État. Donc, tout ce que on met sur le dos des pays africains, c'est un superfuge. Parce que tout simplement, les Occidentaux ont créé de telle façon qu'il n'y a pas d'État en Afrique. Oui. Nous pensons qu'il y a des États, mais il n'y a pas d'État. Je n'ai pas fini. Ça, oui. c'est un coin qu'il faut créer.
Maintenant, c'est l'heure.
Donnez-moi deux minutes, s'il vous plaît.
Deux minutes, alors.
D'accord.
Voilà. Parce que sinon, vous allez empêcher le concert de Koulsi de terminer.
D'accord, je ne voudrais pas le faire, mais donnez-moi deux minutes. Non plus. Bon, donc, ça, c'est une parenthèse que j'ouvre à tous les Africains qui sont dans cette salle, qui se disent intellectuels, d'essayer de réfléchir un peu sur cette question. Comment faire pour libérer nos pays? Ensuite, pour revenir à mon cher Thomas Sankara, parce que le 17, c'était nous qui étions dans les rues. Et donc, je remercie toutes les personnes qui ont parlé, madame et monsieur du Canada, qui ont très bien parlé pour Thomas Sankara. Mais je voudrais donner quelque chose de fondamental que Thomas Sankara a donné, qui n'a pas été dit sur la table ici. C'est la création le fait d'envoyer tous les jeunes qui ont fini de faire leur diplôme, on les envoie au service national populaire. Et ce service national populaire, c'est quoi? C'est-à-dire, si tu es médecin, si tu es économiste, quel que soit le diplôme que tu as fait, c'est dans ce poste que tu fais ton service national populaire. Et pendant ce temps, tu es payé avec une somme modique. Mais c'est vrai que tu n'es pas engagé. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait que tous ceux qui quittent avec un diplôme font le service national populaire et ont une certaine somme, même s'ils n'ont pas de travail, et ils connaissent les rouages de la fonction publique et puis du travail. Et après, ils savent ce que ça se passe. Et avec ça, bon, on a appris les métiers de l'arbre, on a fait tout. Mais c'est la France qui a interdit le service national populaire au Burkina Faso. Et donc, c'est le CERNAPO. Et en fin de compte, je reviens avec ici la comparaison. Entre-temps, on a supprimé le service militaire ici en France pour installer une autre politique qui ressemble justement à la politique que Thomas Sankara a inventée, c'est-à-dire le service national populaire, en amenant les jeunes à travailler dans les fonctions professionnelles.
Christian, je dois te rendre ta montre.
Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, en fait, l'Afrique, il y a des idées qui naissent là-bas et qu'on récupère ici avec la main gauche sans l'avouer. Bravo Thomas Sankara.
Oui, merci beaucoup. Alors voyez, il y a de quoi faire ici en France pour condamner la politique de la France en Afrique. Et nous souhaitons au peuple africain de pouvoir également s'exprimer là où ils sont. Non, je suis désolée. Alors parce que maintenant c'est l'heure du... On termine vraiment à 21h, il faut que la salle soit vidée. Donc,
oui, c'est juste une annonce, voilà. S'il vous plaît. Alors je m'adresse au public qui est là. Bon, merci à tout le monde d'être là. Aussi, je suis content aussi d'être là pour rendre hommage à Thomas Sankara. Alors nous, à l'espace Ishtar qui se trouve au 10 rue Cardinal Lemoine dans le 5e arrondissement, on a commencé depuis le mois de février de l'année dernière à rendre hommage à la tricontinentale et toutes les figures qui ont traversé la tricontinentale. Et on a commencé par Ho Chi Minh, le Che, Nasser. Et là, au mois d'octobre, France Fanon, et au mois d'octobre, on va rendre hommage le 12, le 13 et le 14 à Thomas Sankara. Et donc, pendant ces 3 jours, il y aura des débats, des projections de films, et puis il y a un spectacle inédit qui est préparé par un Burkinabé qui est dans la salle, qui est ici, Carlos Ouedraogo, en hommage à Thomas Sankara. Voilà. Donc, c'est une association qui se trouve au 10 rue Cardinal Lemoine. Dans le 5e arrondissement.
Vous avez un site internet?
Oui, il y a un site internet. C'est espace-ishtar.fr.
Voilà. Et je vous renvoie
Ishtar,
aussi.
Ishtar, c'est I-S-H-T-A-R.
Voilà.
Voilà. Merci beaucoup.
Le nom d'une déesse. Je vous renvoie aussi au site de Survie nationale, donc c'est surviefrance.org. Vous avez également le site de Survie Paris, puisque Survie est organisée en région. Vous avez le site du CADTM, le comité d'annulation pour la dette du tiers-monde. Vous avez également le site Survie Média, où nous mettons en ligne les conférences débats que nous enregistrons, des passages à la télé ou à la radio de nos différents intervenants. Je vous renvoie également au site de la cellule France-Afrique, qui est un collectif qui s'est monté pour faire connaître les biens mal acquis et qui essaie de médiatiser de façon ludique le travail de plainte qui s'est fait au niveau des BMA. Quoi d'autre ? Oui, bien sûr. Alors, je vous communique également le site de la Fédération des Congolais de la Diaspora, qui est fcd.ras.eu.org. Voilà, merci beaucoup et bonne fin de soirée avec ce concert.